Kamel Ben Salah, quadruple meurtre dans le Gers. L'enquête se concentre désormais sur d'étranges transactions qui apparaissent sur plusieurs cartes bancaires du couple. Les Van Hulst possédaient en tout 11 cartes bancaires. 6 d'entre elles ont été utilisées la nuit du meurtre et les jours suivants. Certaines cartes ne semblaient pas fonctionner. Les enquêteurs remarquent qu'une quinzaine de tentatives de retrait ont fonctionné, sur 42, représentant un total de 11 400 francs, c'est-à-dire moins de 2 000 euros. De nombreuses cartes ont été avalées par les distributeurs à la suite de 3 faux codes. Les gendarmes remarquent que le propriétaire des seules cartes qui ont fonctionné lors des retraits est Johan Nieuwenhuis. Cela confirme la théorie de l'obtention de codes sous le coup de la torture. Le pauvre homme de 61 ans est le seul à avoir été lacéré à coups de couteau. Des plaies profondes à des parties du corps non mortelles, mais extrêmement douloureuses. Il apparaît également que des tentatives infructueuses sur les 5 autres cartes sont survenues une semaine avant le meurtre. Et si c'était bien là l'objet de la méfiance des Van Hulst? Tout indique, une fois de plus, que Kamel Ben Salah est l'auteur du vol de cartes. Et si c'est lui qui a volé les cartes, il n'y a aucune autre raison possible que ce ne soit pas l'auteur du massacre. Un appel téléphonique va de nouveau éveiller les soupçons. L'écoute des appels téléphoniques entrant et sortant du domicile de Kamel Ben Salah se poursuit depuis environ 3 semaines. Le 12 juin, les enquêteurs découvrent un appel téléphonique intéressant. Il provient de la bijouterie de Roc-sur-Garonne. Le commerçant informe Kamel Ben Salah que son bijou est prêt. Les enquêteurs sont très étonnés d'apprendre qu'un artisan, peintre en bâtiment, de surcroît surendetté, puisse avoir les moyens de se faire un bijou sur mesure. En réalité, il s'agit de 2 bijoux. Des gendarmes de Toulouse rendent une visite au propriétaire de la bijouterie pour avoir un peu plus de détails. Ils sont reçus par une vendeuse. Elle leur transmet la liste des commandes où apparaissent une bague d'une valeur de 2400 francs destinée à sa femme et une petite chevalière pour son fils d'une valeur de 700 francs. Le montant de la facture s'élève à 3100 francs, environ 500 euros. Les bijoux ont été payés en liquide avec de l'argent retiré dans un distributeur d'un centre commercial. Ce retrait figure sur l'extrait bancaire de Johan. Le 24 juin 1999, les résultats positifs de l'empreinte génétique ne laissent plus de place au doute. Les gendarmes procèdent à une perquisition du domicile du suspect du quadruple meurtre, Kamel Ben Salah. Les enquêteurs découvrent un ticket de caisse sur lequel sont mentionnés les achats de pneus de voiture neufs et de housses de siège. La voiture de Kamel a été intégralement nettoyée. Les gendarmes soupçonnent une volonté de dissimuler des traces de sang. Kamel et sa compagne Sandrine sont placés en garde à vue. Kamel, loin de montrer des signes d'agitation, coopère volontiers. Après tout, il n'a rien à se reprocher, selon ses premières déclarations. Une fois au poste, et avec une voix calme, Kamel explique qu'il a fait la connaissance du couple en avril dernier. Il a été embauché par les Van Hulst pour réaliser des petits travaux non déclarés et participer activement à la rénovation de la ferme. Le 20 mai, jour du drame, Kamel confirme être arrivé à la Boupillière aux alentours de 18h. Il précise qu'il était conscient que le couple Van Hulst devait recevoir des amis à dîner et souhaitait donc achever les travaux au plus vite. C'est ainsi que Kamel se retrouve seul avec Artie. Son témoignage est conforme aux éléments connus des enquêteurs jusqu'à présent. Kamel Ben Salah dit ensuite avoir quitté la ferme vers 23h30, au moment où toute la famille Van Hulst était rentrée. Selon ses dires, Artie lui aurait remis un acompte de 1000 francs, avec l'accord de revenir le lendemain pour récupérer le reste de l'argent dû pour ses services. Kamel exprime son étonnement face à la soudaine absence de la famille constatée le vendredi 21 mai. Pour vérifier la cohérence de ses déclarations, les enquêteurs décident d'interroger Sandrine. Elle est dans une salle d'interrogatoire voisine. Cependant, cette dernière éprouve des difficultés à fournir un alibi solide. Elle dit avoir pris des somnifères et n'avoir pas entendu son compagnon rentrer. Ce n'est pas tout. Elle déclare également que son compagnon lui a expressément dit de ne pas évoquer l'argent qu'il a retiré au centre commercial. La compagne, détentrice malgré elle de certaines informations utiles aux enquêteurs, vient de craquer. Les enquêteurs n'ont eu à faire aucun effort pour obtenir tout simplement la vérité et qu'elle leur raconte ce qu'elle sait. Finalement, Sandrine est plus une victime qu'une complice. Elle repart libre sans son compagnon. Elle ne le reverra pas avant le procès. Dans l'autre salle d'interrogatoire, Kamel Ben Salah est toujours aussi confiant. Mais lorsque les enquêteurs concentrent leurs questions sur son mode de vie, il se contredit et ses déclarations suscitent des doutes. Ses dépenses récentes ne correspondent tout simplement pas à ses revenus. Les gendarmes se demandent pourquoi cet homme a tenu à acheter pour 3000 francs de bijoux alors qu'il venait tout juste d'avouer qu'il avait du mal à joindre les deux bouts malgré son travail. Il dit préférer sauver son couple qui commençait à battre de l'aile plutôt que de régler sa dette de cantine auprès de la commune. Kamel consent à avouer que cet argent provient de la vente de cannabis. Il a déjà plongé une première fois il y a quelques années pour trafic de drogue. S'il doit retourner en prison, mieux vaut que ce soit pour ce genre de délit que pour meurtre. C'est pourquoi il justifie cette soudaine rentrée d'argent par la reprise de trafic de cannabis. Mais les enquêteurs ne sont pas dupes. Ils savent d'où provient réellement l'argent. Ils ne disent rien. Ils veulent voir jusqu'où Kamel peut s'enfoncer dans son mensonge et dans ses contradictions. On lui demande son emploi du temps durant la semaine du quadruple meurtre. Il se dénonce lui-même sans le vouloir. Entre visite à un ami et petit boulot au noir, les enquêteurs notent la présence de Kamel dans toutes les communes dans lesquelles ont été effectuées les tentatives de retrait. Les aveux à demi-mot de Ben Salah et ses contradictions font de lui le principal suspect dans cette tragique affaire. Catherine Léger, la juge d'instruction d'Auch, le met en examen pour assassinat accompagné d'actes de barbarie, de vol et d'escroquerie. Kamel Ben Salah est écroué à la maison d'arrêt d'Agen. C'est son deuxième séjour en prison, en 35 ans d'existence. Le parcours de vie de Kamel Ben Salah est assez chaotique. Né dans des circonstances difficiles, le petit Kamel a du mal à se faire une place aux côtés de ses six frères et sœurs. Très jeune, il est abandonné par sa mère et doit faire face à la violence d'un père alcoolique. Quand il a 15 ans, son père se remarie en Tunisie. Kamel est livré à lui-même, traîne souvent dans les rues. Il réalise plusieurs petits vols à l'étalage pour survivre. Ses nombreux vols le conduisent à un séjour en prison en Tunisie. En 1991, Kamel décide de revenir en France pour retrouver sa mère. Mais il trouve porte close, elle ne souhaite pas l'accueillir et l'héberger, elle a refait sa vie. À 28 ans, il vivote de petits boulots au noir, dort dans un foyer d'hébergement, avant de s'installer pendant un temps chez sa sœur Jeannette, qui habite dans le Gers. Après une violente dispute au cours de laquelle il gifle sa sœur avant de faire une tentative de suicide, il est interné en psychiatrie à Auch. Un séjour qui n'a fait qu'aggraver son état mental. Il y a fait 6 tentatives de suicide avec un cutter. Addict à la marijuana, il est impliqué dans un trafic de résine de cannabis. En clair, pour financer sa consommation de cannabis et ses dépenses courantes, Kamel vend de la drogue. En 1998, il est arrêté et condamné à 8 mois de prison avec sursis. En 1999, Kamel Ben Salah travaille à l'entretien des espaces verts de la mairie de Saran sous contrat emploi solidarité. Pour compléter ses fins de mois, il travaille parfois au noir sur des chantiers. Malgré son instabilité, Kamel tient à entretenir une image de personne non violente. Ses proches le décrivent comme quelqu'un de gentil et de serviable. Il est vrai que le jeune homme n'a jamais fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour fait de violence, du moins jusqu'en 1999. Le peintre en bâtiment, toujours incarcéré, attend son procès et clame son innocence. Il confie à son avocat, maître Édouard Martial, ne pas avoir retiré d'argent avec la carte bleue d'une des victimes. Tout ceci n'étant qu'un malheureux concours de circonstances. Réinterrogé à propos de ses traces ADN retrouvées sur le scotch qui a servi à tacher les victimes, et notamment son sang, Ben Salah, tout comme son avocat, estime que c'est loin d'être une preuve suffisante. Il n'y avait qu'un seul gros rouleau de scotch dans la maison, selon lui. Il s'en servait pour protéger les murs dans le cadre de ses travaux de peinture. Le jour du meurtre, il a simplement eu le malheur de se couper en arrachant un bout, ce qui expliquerait les traces de sang et la présence de son ADN. Mais d'autres indices compromettants posent question. Notamment une trace de pas retrouvée sur un chéquier ouvert posé au sol, près de l'un des cadavres. Ben Salah dit que ce n'est pas la sienne. Aucune chaussure n'a été retrouvée chez lui portant la même semelle. Se pourrait-il qu'il ne soit pas coupable, mais plutôt victime d'un enchaînement de mauvaises situations? Pour Édouard Martial, son avocat, c'est une évidence. Son client est innocent. Avant son procès, Ben Salah fait une demande de remise en liberté du fait que cette mise en examen ne repose sur aucun élément probant. Cette demande est rejetée. Le jeune homme n'en démord pas. Il rédige plusieurs autres demandes de remise en liberté. Au total, ce sont 7 demandes qui vont être rejetées. À la 7e, Kamel craque. Devant les juges de la cour d'appel d'Agen, Il sort une lame de rasoir et se fait une entaille sous le menton. Une vaine tentative pour impressionner, plus que pour se suicider. La blessure est superficielle. Ce n'est pas suffisant pour impressionner la juge d'instruction qui maintient sa demande de procès devant la cour d'assises d'Auch. Le premier procès débute le 22 mars 2002. Maître Édouard Martial est assisté par le médiatique avocat Gilbert Collard dans un procès qui va faire la une de toute la presse locale, compte tenu de l'exceptionnelle gravité des faits. Le quadruple meurtre a choqué l'opinion publique locale, et la population du Gers est peu habituée à de tels actes criminels. Kamel apparaît comme le coupable idéal. Les avocats de Ben Salah estiment que ce procès n'est pas équitable. Kamel maintient avec détermination son innocence. Contrairement à ce que veut faire croire l'accusation, il n'aurait pas tué pour des raisons financières. Et quand bien même il serait coupable, il n'a pas pu agir seul. À plusieurs reprises, la défense remet en doute certains éléments de l'affaire. Rien n'explique comment Kamel a pu s'y prendre pour maîtriser trois adultes en même temps. La scène de crime a été saccagée par la présence des journalistes, ce qui a compliqué grandement la collecte d'ADN. De plus, compte tenu des circonstances des meurtres, il faut avoir l'esprit d'un véritable psychopathe. Or, affirmer que Ben Salah est un tueur de sang-froid irait à l'encontre de son portrait psychologique, selon ses défenseurs. L'accusé présente des traits de manipulation et d'adaptation à ses interlocuteurs. Kamel se plaît à livrer des informations divergentes aux différents experts qui l'ont examiné. Il essaye à tout prix de minimiser ses délits passés, lorsqu'il avait été condamné pour trafic de drogue. En Tunisie, lors de ses démêlés avec la justice, il est prouvé qu'il avait fait usage à plusieurs reprises d'un couteau. Même s'il était déterminé à tout pour sauver sa peau, Ben Salah n'a jusque-là tué aucun homme. Le docteur Frank, le psychiatre qui l'a suivi lorsqu'il était interné à Auch, déclare à la cour que son ancien patient souffre de troubles narcissiques, une pathologie sans traitement selon cet expert. C'est cette pathologie qui est à l'origine de son comportement, notamment sa toxicomanie et sa tendance à l'automutilation. Mais en aucun cas, selon ce psychiatre, il ne pourrait commettre l'impensable, c'est-à-dire ce quadruple meurtre accompagné d'actes de torture. L'avocat général note tout de même le manque d'inhibition de l'accusé. En plein procès, Ben Salah s'est permis d'interpeller directement le président de la cour et de lui manquer de respect. L'attitude désinvolte de l'accusé et son manque de coopération jouent en sa défaveur. Le 5 avril 2002, l'avocat général, Gérard Aldiger, achève l'accusé d'un véritable coup de massue. Devant les jurés, il fait un réquisitoire implacable de 4 heures. Il démontre point après point la culpabilité du peintre en bâtiment. Sa présence au moment des meurtres, ses empreintes digitales, ses traces d'ADN, ses dépenses juste après les meurtres qui sont incompatibles avec ses revenus et les contradictions dans ses déclarations. Les deux avocats de la défense mettent en garde dans leur plaidoirie finale contre une erreur judiciaire quasi certaine selon eux. Ils veulent essayer de démontrer que le procureur d'Auch manque de partialité. Au final, la cour d'assises du Gers le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté, le maximum légal, pour les meurtres des deux couples de Néerlandais. La condamnation inclut une interdiction de droit civique, civil et de famille pour 10 ans. L'accusé ne veut pas en rester là. Il demande un appel. Ce nouveau procès s'ouvre le 27 février 2003. Pour l'occasion, les avocats de Ben Salah ont demandé l'aide du psychiatre Jean-Marc Blandin et de deux autres psychologues pour rétablir la vérité, selon eux, sur son portrait psychologique. Un portrait qui contraste fortement avec les atrocités du massacre au hameau de Boupillère. Ben Salah est à nouveau décrit comme sans trouble psychopathologique flagrant. Les débats s'étalent sur 8 jours intenses, où les avocats des deux parties se confrontent sur des détails cruciaux, en se basant sur le rapport du médecin légiste. Celui-ci déclare que les coups de couteau ont été portés par la main droite. Pourtant, Kamel est gaucher. Cependant, une explication plausible est apportée. Dans la mesure où il tient son fusil de la main gauche, il porte les coups de couteau avec la main droite. Mais tout ceci ne reste que très théorique. L'idée que Kamel ait pu faire usage d'un fusil de chasse pour soumettre ses victimes à sa volonté reste l'explication la plus logique, puisqu'il est seul à agir. Cependant, pour pouvoir tirer avec précision, il faut pouvoir tenir le fusil de chasse à deux mains. Mais d'ailleurs, où est passé ce fameux fusil ? 4 ans après la tuerie, il n'a toujours pas été retrouvé. Ce nouveau procès est vite bouclé. Les jurés confirment la condamnation en appel. Kamel Ben Salah est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Mais quelques années plus tard, cette affaire connaît un rebondissement très inattendu. Nous sommes en 2006. Le procureur d'Auch ouvre une nouvelle information judiciaire pour rechercher des complices ou des commanditaires. Des nouvelles investigations sont lancées pour remonter au bout de la piste d'une nouvelle empreinte qui avait été retrouvée sur la scène de crime, mais jamais analysée. Pourquoi ne pas avoir pris en considération cette empreinte? C'est un mystère. En 2009, après 3 ans d'investigation, on identifie un homme en Espagne. Son identité n'est pas communiquée, mais il a un lien très particulier avec Ben Salah. C'est lui qui lui procurait ses stupéfiants. Tous deux s'étaient rencontrés à Toulouse. Interpellé par la Guardia Civile, le nouveau suspect de l'affaire est livré aux autorités françaises. Interrogé, puis soumis à un test, il s'avère que ses empreintes ne correspondent pas avec celles retrouvées sur la scène de crime. Kamel Ben Salah demeure donc le seul coupable. Le quadruple meurtre dans le Gers avait fait si grand bruit que la maison du hameau de la Boupillère a été le théâtre d'un lieu de pèlerinage pour les amateurs de crime. La table du restaurant où ont dîné les 3 Hollandais avant de se faire massacrer a été réservée à de nombreuses reprises. La ferme où le massacre a eu lieu a été mise en vente peu après l'affaire. Des Toulousains ont racheté la demeure pour en faire une résidence secondaire. Sven, le fils d'Arti, continue de croire en la culpabilité du peintre en bâtiment.